Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Silence dans la salle, silence. Bonjour à tous, auditeurs et membres du jury, bienvenue dans la salle d'audience de C'est la faute à la manette. Pour ce procès, nous entendrons les accusés Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous n'avez pas honte ?
Non, ça va. J'en ai mangé que 4 des Mikado.
Oui, on verra ça tout à l'heure. On a également un autre accusé qui sera Monsieur Tom. Bonjour Monsieur Tom.
Bonjour Monsieur le jury.
Également avec nous un dernier accusé, puisque cette soirée sera voilà, très, très chargée en procès. Monsieur Ferdi, bonjour Monsieur Ferdi.
Bonjour, je suis innocent.
Ah, on verra ça tout à l'heure.
C'est ce que disent toujours les accusés.
C'est ce que disent toujours les accusés, et au final les prisons sont pleines de gens sous la douche. Alors, chacun des accusés ici présents sera jugé tour à tour par chacun des autres membres de l'équipe, donc les autres jurés. Je tiendrai le lieu de juge suprême, donc bien sûr, je ne suis pas inquiété par tout cela, on s'en doute bien. Donc, l'accusé devra se défendre seul et répondre de manière intelligente et réfléchie aux attaques des autres jurés. Vous avez bien compris votre rôle pour l'instant ?
Tout à fait.
Oui, monsieur le juge.
Innocent.
Un vote de fin de procès ainsi qu'un verdict final sera rendu en fin d'audience. Donc, messieurs, si vous êtes réunis ici, c'est parce que vous avez décidé chacun de défendre un des jeux de la série Zelda. Une série qui, nous le savons tous, est un petit peu sur le déclin depuis quelques années. Vous allez devoir être convaincant et convaincre également les auditeurs du fait que vous défendez, selon vous, le meilleur Zelda de tous les temps. Car nous organiserons effectivement un vote à l'issue de l'émission. Le procès Zelda, du coup, et bah c'est parti. Alors, Guillaume, c'est parti. Une petite musique de fond, quelque chose ?
Une petite musique de fond ?
Non, c'est faux. Nous sommes dans un procès.
Mais oui.
Pas de ça chez nous, Guillaume.
C'est les pauses.
On va commencer du coup avec vous, Monsieur Tom. Donc, Monsieur Tom, levez-vous. Voilà, mettez votre main droite sur ce Pokédex. Promettez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur votre Zelda préféré ?
Je le promets.
Très bien. Alors, présentez-vous à la cour, rappelez-nous un petit peu les faits, quel jeu vous défendez, décrivez-nous un petit peu pourquoi c'est votre jeu préféré. Voilà, présentez-nous un petit peu les faits et voilà, essayez de nous convaincre un petit peu.
Alors, chère audience, je me présente donc Tom. L'histoire que je vais vous raconter commence en 2003, voire même en 2002. J'entends parler d'un nouveau Zelda qui sortira sur une console formidable en termes de capacité, la GameCube. Et en envoyant les premiers visuels, stupeur, je trouve le jeu laid à mourir, particulièrement sa direction artistique. Quelle ne sera pas ma surprise quand, en jouant au jeu, ce jeu deviendra mon Zelda préféré et le meilleur Zelda de tous les temps et un des meilleurs jeux, justement, de l'univers. Je parle bien sûr de The Legend of Zelda The Wind Waker.
Vous affirmez donc que ce jeu est le meilleur Zelda de tous les temps?
Bien sûr.
D'accord. Alors, éclairez-nous un petit peu, dites-nous un petit peu pourquoi vous pensez que ce jeu est le meilleur.
Alors tout d'abord, j'ai préparé pour ma défense des petites notes.
Très bien.
En tout premier, il s'agit, on va parler simplement de chiffres, il s'agit du seul jeu vidéo qui a récolté la note maximale de 20 sur 20 sur jeuxvideo.com. Je pense qu'étant donné que ce sont des professionnels aguerris du métier, le test de Romain Deal est un bon point. Pour commencer ma défense. De plus, c'est un jeu qui était révolutionnaire à sa sortie en termes graphiques, mais aussi qui confirmait un savoir, disons, de gameplay, de game design de la part des équipes de Nintendo. Je crois que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense qu'il faudra un petit peu de contestation pour me faire continuer, étant donné que voilà, ce jeu est parfait, et rien que d'entendre justement son nom saura convaincre mes auditeurs.
Objection !
Alors, une objection de ma part, Monsieur Tom.
D'accord, très bien.
Zelda Wind Waker, effectivement, est un jeu qui a marqué la GameCube. Nous sommes d'accord là-dessus.
Mm-hmm.
Le seul problème, et vous ne l'évoquez pas puisque vous êtes de mauvaise foi, Monsieur Tom, ce jeu n'a pas été validé par le Macaron Gameblog. Pour commencer.
D'accord.
Et ça, c'est
une bonne défense. Également, je trouve que vous ne mettez pas assez l'accent sur le fait que le jeu est beau, mais c'est un petit peu tout. Il est un petit peu vite quand même.
Alors évidemment, je me permets d'objecter à mon tour. Ce n'est pas un jeu qui est simplement beau. C'est un jeu qui était plein de trouvailles à la fois visuelles et en termes de gameplay, puisque, rappelons-le, c'était un Zelda différent des autres à l'époque. À l'époque, donc, on sortait de Ocarina of Time et Majora's Mask. Tout le monde s'attendait à un Zelda donc, un petit peu dans cette veine-là, donc un peu mature, un petit peu sombre, et on nous a servi quelque chose donc, en cel-shading, qui était voilà, une nouvelle technique faisant ressembler un jeu vidéo à un dessin animé, avec donc, cette direction artistique complètement folle. Mais, comme je vous disais, ce n'est pas tout. C'est aussi le premier Zelda où on peut, par exemple, ramasser les armes des ennemis. C'est un Zelda où on a un bateau à la place d'un cheval. Tout en restant, en fait, dans les codes de Zelda, c'était un Zelda qui prenait beaucoup de risques, et surtout avec brio, avec une insolente réussite. Un Zelda quasiment parfait sur tous ses mécanismes, qui était d'ailleurs encore moins rigide que certains Zelda qui sont sortis après. Comme par exemple ce Zelda que tout le monde a oublié et que tout le monde déteste. Je parle bien sûr du dernier sorti sur Wii.
Très bien, très bien.
Bonsoir !
Donc objection bien sûr à tous vos arguments, Monsieur Tom, c'est pas très convaincant pour l'instant. Vous avez parlé d'innovation, là où le jeu est finalement un copier-coller de Ocarina of Time sur beaucoup de points. On y retrouve même des choses très très énervantes, comme une fameuse quête que tout le monde a déjà oubliée. Je pense que Ferdi peut me le confirmer.
Oui.
Monsieur Ferdi,
oui,
avez-vous
oui,
fait la quête de la Triforce?
Non.
Non.
Monsieur Guillaume,
je
non plus.
Je n'ai point fait la quête de la
Triforce. Alors, je vais dire à mes jurés qui ne sont pas très bien informés sur le sujet que la quête de la Triforce était sans doute la quête la plus ennuyeuse de l'univers. Puisque, au milieu du chemin, Nintendo s'est décidé à complètement oublier son jeu, et finalement il faut aller chercher des petits fragments de Triforce à travers la mer en cherchant des plans, et ça c'est vraiment pas intéressant, et tout le monde est d'accord là-dessus, Monsieur Tom, ce n'est pas un bon passage et ça gâche entièrement le jeu.
Alors, tout le monde est d'accord, moi-même je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'était justement une partie assez intéressante quand je l'ai fait, donc étant petit j'ai trouvé que c'était un moment vraiment chasse au trésor et une invitation au jeu à découvrir tout le contenu optionnel, puisque c'est le Zelda qui a le plus de contenu optionnel, sans aucun doute, puisqu'on se balade sur une map gigantesque, est-il besoin de le rappeler qu'il faut plus de 20 minutes pour traverser. Et justement, ce passage chasse au trésor était vraiment extrêmement intéressant, puisqu'on pouvait faire toutes les activités secondaires qu'on n'avait pas eu le temps de faire jusque-là.
Objection !
Moi, je l'ai trouvé très vide, ce Zelda, en fait. On peut se balader en bateau et pêcher, et on me balade en bateau et on pêche. La map est grande, mais il n'y a rien, il n'y a que de l'eau.
il y a effectivement, comme dit Monsieur Ferdi, très peu de terre et finalement on s'ennuie un petit peu sur ce
Zelda Pêche Simulator.
Oui, et ce perso détestable qu'est le lion rouge. Bien
tout
sûr.
À fait, oui.
Alors très personnellement, je trouve un petit peu osé de la part de mes jurés de dire que le lion rouge est énervant comparé à des personnages comme Navi. Je vous écoute.
C'est intéressant, c'est une théorie intéressante. Sauf que effectivement, Navi nous suit, c'est plus est plus considéré comme un petit guide finalement pour
qu'un réel personnage
pour l'aventure, alors que le lion rouge est vraiment un personnage indispensable et indissociable de Wind Waker.
Alors il est suffisamment indissociable pour qu'on puisse faire les donjons sans lui, toutefois. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui va nous apprendre constamment comment se battre contre tel ennemi, comment faire ci, comment faire ça, alors qu'on le sait déjà. C'était un personnage qui, de plus, a un grand rapport avec l'histoire. Donc, ce qui était quand même quelque chose d'assez fort à l'époque, une fin, un des Zelda ayant la meilleure fin de tous Zelda confondus.
Monsieur Tom, avez-vous déjà essayé d'aller d'île en île en nageant ?
Et on ne peut pas.
C'est une question rhétorique.
Dans ce Wind Waker, on ne peut pas.
Alors, comment faites-vous sans le lion rouge qui, selon vous, n'est pas indispensable ?
En se téléportant, mon cher monsieur, après avoir fait 5-6 heures de jeu. Ou bien en achetant la version Wii U. Version Wii U qui propose une voile plus rapide pour des voyages optimisés.
Vous confirmez donc que le lion rouge est quand même indispensable. Alors, à certains moments ?
À certains moments, effectivement, mais pas sur les îles. Pas dans les donjons, comme je vous le disais.
Oui, mais vous parlez là de la version Wii U, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la version officielle que vous décrivez justement qui est sortie en 2003 ?
Alors effectivement non, cette version Wii U est pour moi un très bon ajout en des termes graphiques et pour les petits jeunes qui n'auraient pas pu justement jouer au meilleur Zelda. Néanmoins, c'est quand même une version un petit peu, on va dire pas au rabais, mais une version dispensable du meilleur jeu de tous les temps.
D'accord.
Très bien, je crois que Monsieur Ferdi avait également une objection à faire.
Oui, vous disiez tout à l'heure que c'était original le coup des bateaux, mais est-ce que c'est dommage que Nintendo n'ait pas allé jusqu'au bout en faisant les donjons dans le bateau ?
Comme par exemple lors de la quête de la Triforce.
Tous les donjons, avec le bateau tout le temps.
Voilà. L'entièreté des donjons.
Nintendo aurait dû aller jusqu'au bout de son idée.
Donc plutôt comme la tour des dieux alors.
Voilà.
Ok.
Tout le temps.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que la variété, c'est le sel des Zelda. Et pour proposer justement le Zelda le plus varié, donc je parle bien sûr de Wind Waker, il fallait justement pouvoir avoir des décors différents. Et justement, les îles, c'est toutes ces scénettes qui proposaient justement à chaque fois une ambiance différente. On ne spoilera pas trop, hein, évidemment, même si le jeu a plus à peu près 15 ans. On ne spoilera pas trop la carte en elle-même et les secrets qu'elle cache, mais c'est un des Zelda justement avec une variété des décors plus qu'appréciable, et en plus qui fait écho à un autre des meilleurs Zelda, ce qui toutefois ne lui arrive pas à la cheville, Ocarina of Time.
Bon ça !
Ne pensez-vous pas, monsieur Tom, que la direction artistique de ce jeu a été un petit peu facilitée ? C'est-à-dire que tout le monde attendait un vrai Zelda et a eu droit à, finalement, cet ersatz de dessin animé qu'on pourrait croire sorti de Cartoon Network. Cartoon Network qui, vous le savez, fait des très bons dessins animés, mais ne fait pas de très bons jeux vidéo.
Alors, pour moi, cette direction artistique est justement ce qu'on appelle un cas d'école de prise de risque qui marche. C'est-à-dire que depuis Wind Waker, nous avons quasiment tous les Zelda sortis sur Game Boy portable avec le même design de Link, celui de Wind Waker. Alors que sur console, on essaye d'avoir normalement un délire un petit peu plus adulte. C'était justement quelque chose que tout le monde ne voulait pas, mais c'était la bonne chose à faire. C'était pas donner aux consommateurs exactement ce qu'ils voulaient, c'était revenir à la magie de Zelda et leur donner quelque chose de différent.
Oui, mais regardez l'exemple de la CDI et où est-ce que ça les a emmenés.
Ah oui,
avec
mais...
cette espèce cet affreux monstre qui a été les jeux Zelda sur CDI. Vous n'aviez pas peur, justement, en commettant ce crime de lancer un Zelda en cel shading, que ça répète cette action-là ?
Eh ben justement, c'est ça, c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un jeu qui a pris les risques et qui a été récompensé pour ses risques. C'est-à-dire que moi-même, donc, qui considère que c'est le meilleur Zelda, a raison, c'est justement un jeu que, avant d'y jouer, je n'aimais pas du tout graphiquement, je n'aimais pas du tout la nouvelle tête de Link.
Des risques, monsieur Tom, des risques. Très bien, eh bien, Zelda Wind Waker a donné lieu à des horreurs comme Phantom Hourglass ou Spirit Tracks, et les gens s'en souviennent encore. Pensez-vous que ce soit une bonne chose pour la société ?
Alors, je pense que Phantom Hourglass est un excellent Zelda, ce qui n'est pas le cas de Spirit Tracks, malheureusement. Mais Phantom Hourglass a pour moi la meilleure énigme que j'ai faite dans un jeu vidéo. Je vais vous la raconter à vous, auditeurs, pour que vous ayez une petite larme aux yeux. Il se trouve que dans Phantom Hourglass, il y a un moment où on doit apposer un symbole sur une carte. Le symbole apparaît sur l'écran du bas et la carte sur l'écran du haut. Et ce passage arrive à la fin d'un donjon. Et comme vous le savez, dans Zelda, si on éteint la console, on revient au début du donjon. Et sur cette énigme que je trouvais insolvable et qui, en plus, me demandait de faire quelque chose impossible avec les touches, eh bien, il suffisait de fermer la console pour mettre l'un écran sur l'autre écran et donc apposer le fameux symbole sur la carte. J'ai trouvé ça du génie. J'ai trouvé ça formidable. Et donc pour moi, Phantom Hourglass est un bon jeu. Rien que pour ce détail, par exemple.
Très bien, monsieur Tom. Alors, on va en terminer là pour votre plaidoirie, puisque nous avons beaucoup de cas à traiter ce soir. Un dernier petit mot qui convaincrait nos auditeurs, très 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 rapidement, s'il vous plaît.
Alors, très rapidement, jouez surtout à The Wind Waker. Jouez-y jusqu'au bout. C'est un jeu poétique, c'est un jeu fantastique. Et c'est un jeu 20 sur 20. Rien que pour ça.
Très bien, monsieur Tom, vous allez quitter la barre et vous allez être remplacé par notre prochain accusé qui sera monsieur Guillaume. Bonjour. Est-ce qu'on continue tout de suite ou est-ce que la salle va bien ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de... Je vois que la salle commence à s'agiter. Je demande 2 minutes de pause. On reprend tout de suite après. Un peu de silence dans la salle, merci. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, nous reprenons finalement le procès de C'est la faute à la manette pour l'accusé Zelda. Et nous vous accueillons désormais Monsieur Guillaume à la barre. Monsieur Guillaume, bonjour.
Bonjour à l'audience, bonjour monsieur le juge, bonjour les jurés.
Alors, levez-vous, mettez votre main sur ce Necronomicon et jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Je jure sur toute la cité d'Hyrule que je dirai la vérité, rien que la vérité, votre honneur.
Très bien. Alors, présentez-vous un petit peu et présentez-nous un petit peu le Zelda que vous estimez être le meilleur.
Bon alors, monsieur le juge et monsieur les jurés, donc je m'appelle Guillaume Duval, voilà. Moi, je suis assez jeune, donc j'ai découvert Zelda assez tôt du coup, mais par exemple vous, comme vous monsieur Tom, vous avez découvert Wind Waker, moi je n'avais que 5 ans, donc ça faisait assez tôt pour un jeu Zelda, et donc moi je les ai connus très tard, c'était un hiver dans les années 2000 où je n'avais qu'une Game Boy Advance SP, et je n'avais que le jeu Harry Potter à la coupe de feu sur Game Boy Advance SP, et oh mon soulagement quand on m'offrit mon premier jeu Zelda, qui fut The Legend of Zelda Minish Cap, un jeu sur Game Boy Advance, donc du coup, que je m'apprête à défendre devant vous jusqu'à la mort.
Très bien. Alors, quel est selon vous le principal argument de ce jeu ?
Alors, je pense que le principal argument, déjà, à part le côté personnel, serait déjà le retour aux sources d'un Zelda. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Zelda qui rappelle les toutes premières heures de Zelda, c'est-à-dire un jeu vu du dessus en 2D, et avec un graphisme plutôt chatoyant à l'époque de la Game Boy Advance. Donc voilà, je pense que ma principale... mon principal argument sera le fait qu'on peut continuer à faire des jeux en 2D actuellement.
Très bien. Alors, vous pensez que c'est le meilleur Zelda de tous les temps. Oui. Vous oubliez une chose, monsieur Guillaume, ce jeu a été fait par une des pires entreprises du jeu vidéo.
Il est vrai.
Qui est Capcom. Donc vous êtes en train de me dire que le meilleur Zelda n'a pas été fait par l'équipe d'origine, mais plutôt par une société qui se fout régulièrement de ses joueurs et qui finalement n'apporte de moins en moins de choses, vous êtes d'accord messieurs les jurés, hein, apporte de moins en moins de choses au monde du jeu vidéo.
Tout à fait, on se souvient de Resident Evil Mercenaries en particulier, sorti aussi sur console portable. Et qui était
ainsi que le dernier qui vient de sortir, Umbrella Corporation, qui est une catastrophe.
C'est l'ombre de lui-même.
Exactement.
Alors ce que j'aurais à répondre, c'est oui, Capcom est une entreprise méchante avec les jeux vidéo. Oui, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que The Legend of Zelda Minish Cap est un mauvais jeu ? Parce que quand on est forcément méchant, on ne peut pas avoir des fois des lueurs et faire quelque chose de bien, de beau, de agréable à jouer, et en plus de ça, agréable sur une console portable.
Alors, à cela, j'aurais une chose à répondre, monsieur Guillaume. Zelda est beaucoup, beaucoup aimé pour son ambiance, et notamment parfois son scénario. Le problème, c'est que dans Minish Cap, le scénario n'existe pas, comme dans tous les jeux Capcom. Le scénario est inexistant, le scénario est inintéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, messieurs les jurés, concernant l'histoire ?
Alors, concernant l'histoire, j'aurais ajouté que je ne me rappelle pas. Pourtant, j'ai fait le jeu en entier sa sortie.
Ça veut bien dire ce que ça veut dire, monsieur
Tom. Voilà, je me rappelle de ce Zelda comme le Zelda où on a un chapeau qui parle.
Effectivement,
je me rappelle même pas du méchant, d'ailleurs, soyez en passant. Je sais que c'est un sorcier, mais je me rappelle pas son nom.
Alors, pour votre gouverne, monsieur Tom, le méchant s'appelle Vati, voilà.
Ah oui, c'est vrai.
Et du coup, c'est considéré quand même comme le deuxième méchant le plus important des jeux Zelda. Et ça change d'avoir un autre méchant que Ganondorf.
Après monsieur Tunkel ?
Non, il est juste avant.
D'accord.
D'après mes sources très fiables.
Donc, monsieur Guillaume, vous nous avouez que ce méchant est le deuxième méchant sur les deux méchants de
l'univers
Zelda.
Justement, parce qu'on n'arrête pas d'utiliser Ganondorf. Et est-ce que utiliser Ganondorf à foison est une bonne chose ? Des fois, ça, c'est bien un peu d'originalité, je pense, dans ce monde assez formaté.
Monsieur Ganondorf a vraiment la classe.
Alors, j'aurais quelque chose à ajouter. C'est un Zelda, quelque chose qui m'a dérangé en dehors de l'histoire, etc., qui peuvent être un peu subjectives. C'est quand même le Zelda du classique. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on puisse donc diminuer et voir les choses en plus petit, etc., et que ça pourrait être marrant d'être un Borrowers, c'est quand même le Zelda où il y a quand même un donjon de glace, quand même un donjon de feu, quand même un donjon au-dessus des cieux, et que, bon, depuis Zelda 3, c'est déjà le cas. Donc, est-ce que c'était intéressant de refaire un Zelda ? Je ne le pense pas.
Alors je dirais, vu les capacités techniques d'une Game Boy Advance, je pense que c'était la meilleure chose à faire que de se retrouver avec un jeu moche, injouable, voire en 2D vu du côté, comme aurait pu l'être, je pense. Alors utiliser plutôt l'idée de faire un Zelda à l'ancienne était la meilleure chose pour comme ça que le public fan de Zelda puisse aimer. Et comme vous le dites, des donjons de feu, de glace et de foudre, c'est peut-être arrivé dans ce Zelda, mais c'est peut-être un thème récurrent, et pourquoi pas ne pas le réutiliser, en faire quelque chose toujours de bien.
C'est peut-être un détail pour vous, hein. Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Également, une autre objection, monsieur Guillaume. Ce jeu, effectivement, voilà, comme vous le défendez, a plutôt l'air intéressant. Le problème, c'est qu'il est extrêmement court. Et le format portable n'y est pour rien. On sait que de grands RPG ont été adaptés sur Game Boy Advance. Est-ce qu'on ne sent pas que Capcom ne s'est pas embêté à faire plus que le minimum syndical pour ce jeu qui aurait mérité, voilà, des donjons originaux, un petit peu plus de longueur, plus de quêtes annexes, puisque je sais qu'il y en a très peu, hormis quelques, je crois, les médaillons. Je ne sais pas si vous en souvenez, messieurs les jurés. Voilà, pourquoi pas plus de contenu pour un jeu de cette ampleur ?
Eh ben, tout simplement, déjà, regardez la taille de la map. La carte peut être pas forcément grande, par exemple, comme un Wind Waker, comme pourrait afficher une console de salon. Mais vous regarderez, si vous avez une carte de Zelda Minish Cap devant vos yeux, que les décors sont plutôt assez différents. Vous avez des zones de sable, etc., donc feu, glace, vent, il faut récupérer de toute façon tous les bouts de l'épée. Donc je pense très clairement que quand même une grande partie de la capacité technique de la console y est pour quelque chose, parce que un jeu long certes, mais si c'est faire un jeu long sur toujours les mêmes décors, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'une expérience plus courte pourrait être plus intéressante? C'est pas parce que c'est un RPG que ça doit forcément être des heures et des heures.
Messieurs les jurés, avez-vous quelque chose à ajouter
à cela? Si c'était juste faire du farming, ce n'est pas intéressant, je pense.
Alors effectivement, moi j'aurais quelque chose à rajouter. J'aimerais vous poser une simple question. Au final, qu'est-ce que ce Zelda a de mieux que son confrère jouable à 4, Four Swords Adventures?
Vous parlez du Zelda qui est sorti récemment, non?
Qui était sorti à l'époque sur GameCube.
Sur Game Boy Advance, au départ Linked fourni avec Link to the Past.
Voilà, c'était un jeu donc jouable à 4, d'à peu près la même durée de vie que Minish Cap, sauf que justement c'était le premier où on contrôlait 4 Link d'un coup et qui proposait en fait aussi quelques boss et voire quelques parties de Minish Cap dedans, puisqu'il réutilisait quelques mêmes assets. Qu'est-ce que ce jeu-là a vraiment de proposé en plus?
Alors je n'ai pas étudié le cas de ce jeu Zelda. Donc je dirais juste, je pense, au vu des derniers Zelda qui étaient jouables en multijoueur, qui n'étaient pas forcément des vrais Zelda, je pense que là c'est un vrai Zelda, parce qu'un Zelda ça se joue tout seul, tout simplement. Voilà, ce sera mon plus gros argument, un Zelda en multijoueur n'est pas un vrai Zelda pour moi.
Très bien. Monsieur Ferdi.
Oui, vous parliez d'un Zelda, et nous, tous les Zelda qu'on va présenter autour de cette table, on a tous un moment phare, et celui-là, je ne me rappelle pas de moment phare dans ce Minish Cap.
Très bon argument.
Est-ce que vous avez quelque chose, une histoire, un moment à nous donner? Parce que...
Quelque chose qui vous aurait marqué?
Je dirais le chapeau, voilà, Exelo. Je pense que c'est un être adorable... Qui vous donne envie de continuer l'aventure des heures et des heures encore pour l'entendre vous parler que vous ne savez pas faire une quête et vous donner des indices aussi longtemps que possible.
Très bien. Alors, Monsieur Guillaume, Excello rime avec YOLO. Et voilà, ça vous êtes d'accord, messieurs les jurés?
Oui.
C'est forcément qu'il y a une raison. Un mauvais personnage avec un mot absolument débile, je pense que la preuve est faite et qu'on n'a plus besoin d'en discuter.
Excello rime aussi avec brio.
Avec Narvalo. moi, j'ai trouvé que le personnage de Excello était complètement insupportable.
Détestable.
Détestable, en tout cas, bien plus que la plupart des autres petits personnages agaçants dont on va parler, dont on a parlé et dont on va parler dans les autres Zelda. Excello, c'était un personnage dont on aurait pu se passer, en fait. C'est ça qui est vraiment pénible.
Je pense
celui-là.
Aussi.
J'ai trouvé que c'était un personnage dont on pouvait se passer. Est-ce que, Guillaume, vous pourriez me citer un passage, justement, du jeu où Excello brille par sa présence?
J'ai envie de vous dire, monsieur le juré, que Excello brille par sa présence, parce que il fait tout avec vous. Enfin, si vous voulez vous rendre dans le monde des miniches, c'est grâce à Excello. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et ça, c'est déjà un grand point. Après, dans son terme de dialogue, je ne dirais pas qu'il brille, ou il brille peut-être par son ignorance et sa naïveté, je dirais, un peu. C'est comme un enfant. Là, dans ce Minish Cap, Link n'est qu'un enfant. Donc c'est normal qu'il soit avec quelqu'un d'un peu naïf, idiot, mais c'est ça qui donne son charme.
Alors, parlons-en, monsieur Guillaume, des passages en Minish. Il y en a effectivement de très réussis, il y en a également de très mal réussis, où l'on est absolument minuscule sur l'écran. Est-ce que vous vous en souvenez? Et on ne voit rien du tout, c'est injouable. Faire un perso minuscule sur un écran minuscule, bravo Capcom.
Alors, je ne dirais pas que c'est qu'on ne voit rien, je trouve que c'est vous le faites exprès, monsieur le juge. Je ne dirais pas ça, c'est quand même jouable. Peut-être devriez-vous vous acheter des lunettes, je trouve. C'est inacceptable de dire ça.
Je suis impartial, monsieur Guillaume, je suis impartial. Pensez aux personnes âgées qui veulent jouer à Minish Cap et qui ne peuvent pas à cause de ces passages.
Eh bien qu'elles le lancent sur un émulateur et là, elles auront un gros écran. Non, je suis pas d'accord.
Vous encouragez le téléchargement illégal, monsieur Guillaume, s'arrêter là.
Si vous possédez la cartouche, vous avez le droit. Vous avez le droit, monsieur.
C'est ce qu'on dit, monsieur Guillaume. Un dernier mot pour essayer de convaincre nos auditeurs.
Le dernier mot sera Excello, parce que ça rime et que c'est beau.
Très bien. Bon, et eh ben, est-ce que vous êtes convaincus, messieurs les juges ?
Jamais.
Absolument pas.
Bon, très bien. Alors, est-ce qu'on a le temps d'enchaîner avec le troisième procès ? Je sens que ça... Ah. Silence dans la salle, on fait une pause, on revient dans 2 minutes. Silence dans la salle, merci, le procès n'est pas fini, il en reste encore. Alors, nous arrivons avec vous, monsieur Ferdi. Bonjour, monsieur Ferdi.
Bonjour, je suis innocent.
Alors, vous allez mettre votre main droite dans ce Pip-Boy venu tout droit de Fallout 4 pour une super collector incroyable que Tom adore. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, toute la vérité, squalala.
Au nom des radiations, et oui, je jure de mettre, de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Très bien.
Et de défendre ce Zelda.
Très bien. Alors, présentez-vous un petit peu, dites-nous votre nom, déclinez votre identité, dites-nous quel Zelda vous défendez et pourquoi l'argument principal pour lequel vous pensez qu'il est le meilleur. C'est parti.
Alors, je m'appelle Ferdi et je suis un vagabond et je présente Zelda Link's Awakening, la version DX principalement.
Très bien.
Alors, il faut savoir que Nintendo a sorti un Legend of Zelda sur Game Boy en 93 sur Game Boy noir et blanc. Et à la sortie de la Game Boy Color, ils ont sorti la version DX, donc une version avec des couleurs, un nouveau donjon. Donc moi, je venais juste d'acheter la Game Boy Color, la transparente, la mauve, on voyait les équipements.
Très bien.
Et j'avais acheté Zelda parce que j'aimais beaucoup mon Zelda 1, mon Zelda 2, mon Zelda 3 sur la vieille NES et la vieille Super Nintendo que j'avais eu d'occasion. Et que j'avais réussi à finir que Zelda... 3, donc je me suis dit un autre Zelda peut-être.
Vos perversions ne regardent que vous, monsieur Ferdi.
Et donc, alors, c'est mon Zelda favori pour beaucoup de raisons. Il est très très beau pour un jeu Game Boy Color.
Très bien.
Il est surtout poétique. Voilà, c'est le Zelda le plus poétique qui existe sur tout Zelda confondu. C'est celui qui nous entraîne dans un monde totalement différent et le rêve a une place très importante.
D'accord, très bien. Alors, Monsieur Ferdi, vous nous parlez d'un univers poétique. Je peux éventuellement vous l'accorder. En revanche, l'univers dans lequel on évolue ne serait-il pas un petit peu, comment disent les jeunes, barré, c'est ça?
Barré, débile.
Débile, pour ne pas dire complètement anachronique et complètement hors de propos.
Sans parler de la traduction qui ne fait pas du tout honneur au matériau d'origine.
Nous sommes d'accord.
Alors, il faut savoir que ce Zelda est facilement mettable dans la chronologie, car Link, au début, est sur un bateau. Le bateau a subi une tempête, il atterrit sur une plage où il récupère son épée, on lui rend son bouclier. Et c'est surtout quelque chose qui... Il a déjà des attaques, il a déjà l'attaque tournoyante, donc ce qui prouve qu'il est déjà entraîné. Donc niveau histoire, si on regarde la chronologie des Zelda, il a déjà sauvé et aidé Hyrule par le passé.
Monsieur Ferdi, faites-vous équipe avec Monsieur Tom?
Non.
Non? Vous parlez de bateau. Vous parlez d'une suite d'un Zelda en bateau.
Ce n'est pas celui-là.
Alors, de quel Zelda parlez-vous?
C'est de Ocarina of Time et voilà. De la chronologie.
Avez-vous vu un bateau dans Zelda Ocarina of Time, Monsieur Ferdi?
Non, mais c'est après. Ça se situe après, quand il part pour s'entraîner ailleurs.
Très bien. Voilà. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez?
Oui, bah déjà le fait qu'ils connaissent déjà une attaque tourbillon et qu'il n'a pas besoin d'apprendre, alors que normalement c'est une attaque dans les anciens, à ce niveau-là de Zelda qu'il devait apprendre obligatoirement, qu'il n'avait pas de base. Voilà.
Pourquoi il n'a pas le reste de ses objets au début?
Parce que dans tout Zelda, il repart sur une nouvelle contrée, donc... Et la tempête a peut-être fait perdre ses...
Mais ce n'est pas expliqué, ça me paraît assez simpliste comme conclusion.
Oui, rien n'est expliqué au début du jeu.
Sans parler du fait que Ocarina of Time sortira quelque chose comme 4 ans plus tard.
Oui, mais c'est la chronologie des Zelda qui est totalement bouleversée et très complexe.
Je trouve vos arguments assez étonnants, monsieur Ferdi.
En tout cas, il va...
Et donc c'est dans l'univers aussi, est très intéressant. Vous parliez de l'univers, vous avez rebondi là-dessus. C'est aussi le premier qui est hors de Hyrule, de Ganon et de Zelda. Les trois n'existent pas dans le jeu, nous ne sommes pas à Hyrule. Il n'y a pas de princesse Zelda à s'ouvrir, ni même entendre. Il n'y a pas de Ganon ou de Ganondorf à attaquer ou à éliminer. C'est dans un nouvel univers, une île qui est vraiment nouvelle, voilà, dans l'univers de Zelda.
Très bien. Alors, vous défendez la version DX. Oui. C'est bien ce que vous nous avez précisé au départ.
Totalement.
Messieurs les jurés, que pensez-vous de la version DX?
Pas de soutien-gorge de la sirène.
Pas de soutien-gorge de la sirène également. Je crois qu'il y avait autre chose.
Alors, le prix.
Le prix?
C'est très cher pour un remake HD, dis donc.
C'est très cher pour un DLC, Monsieur Ferdi.
Monsieur FF10 HD.
N'avez-vous pas honte?
Alors, non, je n'ai pas honte, puisque moi, je n'avais pas l'autre Zelda, qui était sorti quand même 5 ans avant. Il y a quand même énormément de temps. Et donc la couleur a change pour moi beaucoup, beaucoup le jeu. Il y a le nouveau donjon qui est basé entièrement d'ailleurs sur des énigmes à base de couleurs qui donnaient un sens au fait de la réédition avec une nouvelle tenue. Donc ça veut dire que c'est à la fin de ce donjon on gagnait une tenue, donc une tenue rouge qui nous rendait plus forts, une tenue bleue qui nous rendait plus résistants. Et ça rajoute, et aussi un autre petit truc, c'est qu'il y a un photographe dans le jeu qui va vous suivre durant tout le jeu et qui va vous prendre en photo à différents moments. Et à partir de là, vous pouvez les imprimer sur la Game Boy Printer, qui était un gadget de l'époque. Donc c'est deux nouveautés.
À l'instant !
Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'ajouter une tenue dans un jeu justifie le fait d'en refaire une réédition ?
Dans ce cas, Monsieur Ferdi, Street Fighter est le meilleur jeu du monde.
Vous travaillez chez Activision, monsieur.
Vous avez oublié le fait du nouveau donjon. Et la tenue est la récompense de ce nouveau donjon.
Est-ce que vous pourriez me rappeler la durée d'un
donjon
dans Legend of Zelda classique?
Dans DX, ils sont assez courts. Il faut savoir que voilà, c'est... Mais celui en couloir est le plus compliqué car il est basé sur des énigmes de logique pure.
Monsieur Ferdi, connaissez-vous l'extension de Destiny qui s'appelle Le Roi des Corrompus?
Oui.
Je n'ai rien à ajouter, merci.
Coïncidence,
je ne crois pas. Je ne crois pas.
Non, c'est voilà. Et sinon, vous parliez aussi de l'univers un peu barré, un peu débile, un peu. Il faut savoir que ce Zelda parle un sous-texte très étendu sur le monde du rêve où tout est un rêve. Pour beaucoup, c'est le rêve en fait de Link. Nous sommes dans le rêve de Link. Donc aussi bien le fait qu'il y ait beaucoup de personnages d'autres jeux vidéo qui apparaissent, une peluche Yoshi, le chien de Mario, la grosse boule avec le etc. Il y a beaucoup d'autres personnages qui apparaissent qui ne sont pas de la mythologie Zelda. Mais des mythologies Nintendo qui apparaissent.
D'accord. Alors, concernant Nintendo. Que pensez-vous de la fameuse censure qui a fait le scandale du jeu? Alors pourquoi préférer cette version avec censure? Est-ce que vous encouragez finalement Nintendo à prendre le pouvoir, à cacher, cacher des seins sur des statues dans Castlevania, par exemple?
La censure a été aussi mise en place à cause de la version de la couleur, en fait. Voilà. Dans l'implantation de la couleur, quand les développeurs ont colorisé le jeu, ils ont décidé de passer certaines choses qui avaient choqué. À l'époque, il faut savoir que Famille de France et etc., d'autres organismes étaient encore présents en France et avaient beaucoup plus de pouvoir que maintenant par rapport aux jeux vidéo.
Alors, allez-y, monsieur Tom.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il y avait d'autres personnages de jeux Nintendo donc dans ce Zelda. Est-ce que c'est pas communément ce qu'on appelle n'importe quoi?
Non, parce qu'à aucun moment ils n'ont une influence directe sur le jeu.
D'accord, puisque donc c'est un rêve.
Voilà.
Donc vous pensez que ce jeu, dont le scénario est donc est globalement un copier-coller de Mario 2, est d'une profondeur sans égale. Alors que du coup, ce qui s'y passe ne sert à rien, puisque c'était un rêve. Et que donc c'est une quête vaine, sans aucune conséquence. Je crois savoir que vous aimez le cinéma et que ce genre de choses est interdit dans pas mal de festivals.
Ce qui réfute en plus l'idée que ce soit la suite de Ocarina of Time.
Tout à fait.
Par la même occasion.
Ce qui est intéressant, c'est que donc la quête de ce Zelda-là, c'est de réveiller le Poisson Rêve. Et le Poisson Rêve est une entité qui fait partie, par contre, du monde de Zelda, qui, grâce à celui-là, fait partie du monde de Zelda. Et en fait, on explore Link vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les peurs de Link. D'ailleurs, sans spoiler, le boss final est une représentation de ses peurs. Je ne dirais pas les formes qu'il a, etc. C'est un cauchemar vivant, il représente vraiment le côté, comme fut dans d'autres Zelda, le Link noir. Vraiment, et aussi on montre, il faut savoir qu'il y a aussi sa fascination pour Zelda, donc il faut savoir qu'il va rencontrer un personnage qui s'appelle Marine, qui ressemble beaucoup à Zelda, mais qui chante, qui est plus acceptable, et qui récompense plus le Link, et plus amical que le serait Zelda, moins cette distance.
Objection ! Monsieur Ferdi, j'aurais une simple question.
Oui.
Pensez-vous que c'est le meilleur Zelda de tous les temps?
Pour moi, c'est le plus original et le meilleur, oui.
Très bien. Alors, si c'est effectivement le meilleur Zelda de tous les temps, pourquoi son univers n'a-t-il jamais été repris dans un Zelda? N'est-ce pas là un aveu d'échec?
Justement, tout au contraire, c'est un aveu d'originalité, car vraiment, comme je vous ai dit, c'est un rêve, c'est ce qu'on appelle au cinéma un one-shot, quoi. C'est quelque chose qui n'amène pas de suite. C'est un épisode qui approfondit les personnages sans chercher à refaire exactement la même chose qu'un autre jeu, qu'un autre univers.
Un dernier argument peut-être,
tout à fait, vous parlez d'approfondissement des personnages. Alors par des personnages, je suppose que voilà, vous voulez parler évidemment
du personnage
de Link. Est-ce que vous pensez que Link a une personnalité?
Alors, il faut savoir que Link...
Auriez-vous par exemple une phrase, une citation de Link pour appuyer vos propos?
Et là...
D'accord.
Je m'en souviens.
Effectivement.
Moi aussi, ça me dit quelque chose.
Et non, Link est c'est un héros. Ça approfondit le personnage de Link, pas la personne. Mm-hmm. Le personnage du héros Link qui est de génération en génération.
Intéressant.
D'accord. Est-ce que vous auriez une dernière chose à dire à l'auditoire, histoire de le convaincre définitivement? Je pense pas que ce soit le cas, mais allez-y quand même.
Convaincre, c'est simple. C'est faites-le. Il n'est pas très long. Il est assez simple, c'est un Zelda que je conseille à peu près à tout le monde, et il est très très beau, et surtout la quête du Poisson Rêve avec les instruments de musique est juste exceptionnelle. La fin fait pleurer limite, voilà. Et les très belles cinématiques de la version Game Boy rendent le jeu encore plus impressionnant.
Très bien monsieur Ferdi, je vais vous laisser quitter la barre.
Je vous en prie.
Donc on a entendu tous les accusés pour ce soir, je pense qu'on va bientôt rendre l'antenne si vous êtes d'accord messieurs les jurés. Monsieur Tom,
j'aurais une petite question pour monsieur le juge.
Oui, moi-même.
Oui, tout à fait. Pourriez-vous lever la main droite, s'il vous plaît?
Oui, je vous en prie.
Que vois-je sur votre avant-bras?
Alors, j'ai joué au football et je me suis un petit peu sali et ça a donné cette forme-là.
C'est faux.
C'est une triforce, monsieur.
C'est un signe.
Est-ce que, messieurs les jurés, nous serions d'accord pour peut-être au moins statuer sur le fait que notre juge ici présent
n'est pas objectif, mérite d'être jugé à la même...
Puisqu'il a lui-même une triforce tatouée sur le bras et que donc c'est un joueur de Zelda.
Et donc il a aussi sûrement son Zelda favori comme nous.
Tout à fait, je pense que nous allons organiser un petit procès à la bonne franquette.
Oui, on va verser un peu les rôles.
D'accord, le temps que nous installons à la place du juge, je vous propose donc qu'on s'écoute une musique. Quel est votre Zelda préféré, monsieur Gorefeus?
Vous le saurez en temps et en heure. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, moi-même.
D'accord.
Silence, silence dans l'auditoire. Silence. Merci à tous. Nous voilà de retour pour le procès de notre ancien juge, Gorpheus. Gorpheus, posez la main sur ce dodongo, levez votre main signée de la Triforce et jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Je le jure.
Monsieur Gorpheus, votre Zelda préféré nous ont révélé nos agents de police armés de bottins et The Legend of Zelda Majora's Mask. Pouvez-vous confirmer ces faits ?
Je confirme ces faits, effectivement.
Vous dites, je cite, Zelda Majora's Mask est le meilleur Zelda de tous les temps. Pouvez-vous confirmer ?
Je le dis et je le confirme et je vais vous le confirmer.
D'accord, eh bien, nous écoutons votre plaidoyer.
Donc bonjour, je m'appelle donc Julien Gorpheus pour une partie d'Internet. C'était un soir de l'année 2000, alors que j'avais encore uniquement une Nintendo 64. J'avais vendu ma PlayStation et vendu mon âme à Nintendo à ce moment-là. J'avais joué à Ocarina of Time, l'expérience m'avait plu et j'en voulais plus. C'est un soir où je suis tombé sur un jeu que l'on nommait à l'époque Ninja Gaiden. C'était son nom de code, qui est devenu après Majora's Mask. Majora's Mask, c'est un petit peu le jeu qui m'a fait dire que le jeu vidéo pouvait vous faire ressentir des choses qu'aucun autre jeu vidéo ne vous avait fait ressentir jusque-là. Pour moi, il s'agit effectivement du Zelda ultime, et pour beaucoup de raisons, que je peux commencer à vous exposer maintenant, si vous êtes d'accord, monsieur le juge.
Alors, avant cela, pouvez-vous, après ce plaidoyer, confirmer que vous avez consommé du Zelda Majora's Mask ?
J'en ai consommé beaucoup, j'en ai racheté et j'en ai reconsommé.
D'accord, vous pouvez commencer, monsieur, à nous présenter les spécificités de ce Majora's Mask que vous avez consommé.
Ce Majora's Mask est un jeu un petit peu particulier dans l'univers de Zelda. Il s'agit du premier Zelda réalisé par Eiji Nonuma, qui réalisera plus tard votre Zelda préféré d'ailleurs, monsieur Tom. Mm-hmm. Hein,
nous avons N'essayez déjà, pas d'acheter
nous les... avons déjà fait, un point en commun, monsieur Tom.
Silence, s'il vous plaît.
Donc ce premier Zelda a eu cette capacité exceptionnelle d'être conçu en 2 ans, ce qui est très court pour un jeu de la tempe de Zelda. Il en est ressorti un Zelda avec une ambiance absolument exceptionnelle. Et je dis exceptionnel. Il s'agit d'un des Zelda les plus ambitieux, les plus sombres, les plus intéressants et probablement l'un des mieux écrits de toute l'histoire de la saga Zelda.
Le tout dans le temps de développement d'un Call of Duty, donc.
Exactement.
Vos allégations ne manquent pas de piquant. Est-ce que l'un des jurés avec moi aurait peut-être quelque chose pour faire avancer le débat ?
Oui, enfin... Majora's Mask n'est qu'une repompe en fait du moteur de Ocarina of Time. Donc à part quelques masques, ils ont rajouté le système de masques qui était déjà présent dans Ocarina of Time. Donc il n'y a pas vraiment grand-chose d'original, quoi. C'est...
Alors, voilà. Monsieur Ferdi, savez-vous développer un jeu ?
En 2D, mais pas en 3D.
Savez-vous développer un jeu quand Miyamoto vous dit « Vous avez droit à ma saga la plus prolifique, vous avez 2 ans, vous pouvez réutiliser ce qui a déjà été fait, mais faites quelque chose d'original. » Pensez-vous vraiment qu'en 2 ans, on a le temps de créer un jeu de A à Z ?
C'est pas vraiment un signe de qualité.
C'est un signe de qualité car ils ont réussi à récupérer le meilleur de ce qui se faisait pour le rendre absolument cohérent dans un autre univers. Et ça, Monsieur Ferdi, peu de jeux savent le faire.
C'est un autre univers, on n'est plus dans un Zelda. Je croyais qu'on était dans un...
Je croyais qu'il s'inscrivait aussi dans sa saga.
Oui, on joue bien Link, on est à Hyrule.
Nous ne sommes pas à Hyrule, effectivement, nous sommes dans la plaine de Termina. Et ce Zelda se situe, contrairement à votre Zelda, directement après Ocarina of Time. Et cette fois, j'en suis convaincu, même vous, messieurs les jurés, vous pourrez me le valider.
Objection, il se trouve que c'est Wind Waker qui se situe directement après Ocarina of Time, selon
la chronologie
officielle.
Selon la chronologie officielle, Zelda Majora's Mask se situe après Ocarina of Time. Et ça, j'en suis convaincu.
Oui, mais pas juste après.
En principe, si, directement.
Toujours est-il que, malgré ces petites divergences, puisque pour nos auditeurs, il se trouve qu'il y a 2 timelines à partir d'Ocarina of Time.
3 même.
et que nous avons tous les
deux
raison.
Il en existe tout à fait trois.
Vous ne pourrez pas nous enlever le fait que c'est un Zelda qui a été assez peu vendu par rapport à d'autres. Citons notamment justement Ocarina of Time, son grand frère, auquel justement il était censé succéder.
Très bien. Alors, ce jeu est sorti dans les années 2000. Mm-hmm. En 2001, une certaine console débarque. Quel est son nom, monsieur Tom ?
La PlayStation.
En 2001 ?
Non, la PlayStation 2. Non, la Dreamcast.
Une
non,
autre...
je ne sais pas.
La GameCube ?
La GameCube.
Exactement, la GameCube débarque en 2001.
Ah, vous avez raison.
C'est un des derniers jeux de Nintendo
64. C'est un des derniers jeux de la N64. Ouais, tout le monde avait à l'époque...
Des... Un jeu qu'on met au rabais, hein, fin de jeu, les fins de
ouais,
console.
Tout ça, et... Oui, voilà. Tout à fait.
Des alors, jeux pas importants, du coup.
Voilà, des jeux pas importants.
Le
comme...
PES 2015.
On finit la console sur des jeux, on recycle des licences, etc.
Messieurs, est-ce que vous connaissez Shadow of Colossus ?
Tout à fait. C'est...
Ouais.
Vous aimez le jeu ?
Pas terrible.
Ouais,
il s'agit d'un jeu de fin de génération. Il faut finir en beauté la génération.
C'est pour ça qu'il est pas beau. Ce qui explique le point commun avec Zelda Majora's Mask.
Oui.
Alors, Zelda Majora's Mask a bénéficié d'une avancée majeure dans le monde de la technique du gaming qui s'appelait l'Expansion Pack, qui permettait d'ajouter quand même 2 mégas de RAM dans votre console, monsieur Guillaume.
2 mégas.
Il était obligatoire, l'Expansion Pack ?
Il était obligatoire pour jouer, mais il était fourni avec le jeu, je
donc,
le rappelle.
Vous, comme tout à l'heure, vous me disiez pour la politique des DLC, pour Zelda DX, c'est à peu près la même chose. On rachète du matériel pour sauver une console en fin de vie.
Absolument pas. Il était fourni dans chaque jeu.
Oui, si mais avez... il y avait un plus-value.
C'est
donc,
un petit peu la... La Sega CD, en fait.
C'est comme Wii Motion Plus avec Wii Sport Resort. Excusez-moi d'utiliser ce terme qui est assez offensant, quand même. Mais...
Je suis offensé, je suis très offensé.
Nous allons recentrer peut-être un petit peu le débat. Si je vous dis comme ça, directement, Zelda Majora's Mask, est-ce que nous sommes d'accord, messieurs les jurés, pour dire que le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est chelou ?
Ah, bizarre, weird.
Weird, oui, ouais, tout à fait.
Voilà, complètement chelou. Pourriez-nous...
Et dans le mauvais sens du terme.
Oui, complètement chelou, dérangeant. Voilà. Chelou japonais.
Si Link savait que Ning était le rêve, là on est dans les psychoses de Link. Hein.
Exactement. Alors, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de ce point ?
Votre réflexion m'étonne, monsieur Ferdi, venant de quelqu'un qui défend le Zelda un petit peu le moins logique de toute la saga. Je pense pas que votre argument ait un quelconque impact sur moi. Pour vous répondre aux deux qui ont à peu près un argument correct, l'ambiance de ce Zelda traite de thématiques qui n'ont que rarement été abordées, soit dans le jeu vidéo, soit dans les Zelda en général, qui traite du désespoir, qui traite de la mort, qui traite de plein de choses qui sont finalement pas ancrées dans l'univers Zelda. C'est quelque chose qui a un petit peu révolutionné la série, puisque c'est des thématiques qu'on ne reverra pas et que Miyamoto n'aura jamais les couilles. Excusez-moi l'expression.
Oui, mais
l'expression.
Retenez votre langage, monsieur.
De revoir, même Eiji Onuma n'aura pas les knackis de refaire quelque chose d'aussi ambitieux. Ne serait-ce que pour les thématiques, ne serait-ce que pour l'idée des masques, des transformations. Chose qui n'a jamais été refaite non plus.
Alors si un jeu a refait quasiment la même chose, c'est Final Fantasy XIII-3. Qui est lui-même aussi au moins autant un chef-d'œuvre que Majora's Mask, on peut le dire.
Encore un jeu de fin de
vie de console, encore un jeu justement avec plus ou moins des masques,
le même
des
moteur,
toujours la même comparaison.
Le même moteur repris. Est-ce que vous pourriez confirmer ou infirmer justement ce lien de parenté bâtard consanguin entre Final Fantasy XIII-3 et Majora's Mask si
il n'y en a aucun, monsieur Tom, absolument aucun.
D'accord, avez-vous des preuves ?
Des preuves
tangibles, j'entends autre chose que justement...
Laissez-moi le temps, je vous donnerai lors d'une prochaine émission une interview du créateur de Final Fantasy XIII-3 qui vous démontrera que ce n'est pas vrai.
D'accord.
XIII-2 du coup plutôt, pas XIII-3.
Monsieur Tom a dit XIII-3.
C'est XIII-3 qui reprend la fin du monde justement en un temps limité et plusieurs costumes justement qui ont différents effets sur son héroïne.
Avant de me faire attaquer encore un petit peu pour rien, je voulais vous parler un petit peu des méchants de ce Zelda qui sont bien plus intéressants que tous vos méchants réunis, qui sont finalement Skull Kid, un enfant perdu dans les bois qui trouve un masque maléfique qui le rend maléfique, et cette lune absolument effrayante qui traîne au-dessus de vos têtes pendant toute la durée et qui s'abat un petit peu comme une plaie d'Égypte constante sur votre tête et qui agit directement sur le moral de tous les PNJ du jeu.
Cette lune n'est qu'un élément de décor finalement.
Oui, tout à fait.
C'est comme le soleil dans les autres Zelda, c'est un élément de décor.
Voilà, finalement, ouais.
C'est certes, il a.
C'est comme le soleil même dans les Teletubbies, j'ai envie de te dire.
Avec un nez en fait, oui,
voilà. Le soleil des Teletubbies, il n'a
aucun impact.
On ne peut pas y toucher, on ne peut pas y interagir vraiment avec.
Tout à fait, c'est voilà, simplement.
C'est de la décoration.
C'est une vague métaphore un petit peu poussive.
Oui, voilà, très poussive même.
Qu'avez-vous à dire du coup contre la gestion du temps absolument incroyable de ce Zelda?
Alors la gestion du temps complètement incroyable, je ne pense pas. Si l'un de mes collègues veut arguer dessus, moi je dirais que c'est simplement une gestion du temps sur 3 jours. On a vu mieux dans des jeux comme Minecraft.
Oui, avec les meilleures quêtes annexes de tous les temps, la quête des amoureux, Monsieur Ferdi, vous pouvez pas me dire que vous aimez pas cette quête.
La quête est longue et laborieuse. On doit obligé de faire des allers-retours. On peut pas la faire dans la première fois qu'on joue au jeu. C'est une quête pour finir le jeu à 100%.
Voilà, c'est juste pour vous dire, ne quittez pas notre console, n'allez pas voir Sony, on a encore des trucs à faire.
Voilà, si vous voulez le dernier masque pour avoir tout à 100%, il faut gratter. Voilà.
Cher public, chers auditeurs, vous saurez faire le bon choix, de toute façon, je ne m'en fais pas. Je ne m'en fais absolument pas là-dessus.
D'accord, intéressant.
Nous allons terminer ce procès.
Peut-être un dernier mot, oui. Monsieur Gorefeus, l'accusé. Avez-vous un dernier mot pour vous défendre avant que nous closions l'assemblée?
Oui, tout à fait. Alors, ce Zelda, comme je vous l'ai dit, est pour moi le meilleur de la saga puisqu'il diffère totalement des autres Zelda. Il conserve un esprit qui reste dans la timeline de Zelda tout en apportant quelque chose d'unique. Il m'a fait ressentir des émotions comme jamais un autre jeu m'a fait ressentir dans toute ma vie. Je considère que ce jeu est le meilleur de tous les temps, en plus d'être le meilleur Zelda de tous les temps. Voilà.
Merci.
C'était donc notre conclusion. Nous allons fermer l'assemblée et la salle au public.
Bien.
Nous allons passer à la délibération des jurés.
On va passer maintenant au vote. Je reprends un petit peu mon rôle.
Je vous en prie.
Alors, des quatre interventions, laquelle vous a le plus convaincu, Monsieur Ferdi?
Moi, c'est la vôtre, Monsieur le juge.
Très bien.
Celle de Majora's Mask.
Monsieur Guillaume.
Je dirais celle de Monsieur Tom, qui m'a beaucoup intéressé sur Wind Waker, même si je ne partage pas son avis, je trouve que l'avis était intéressant.
Très bien, Monsieur Tom.
Moi, je rendrai l'appareil à Guillaume, qui a quand même eu la lourde tâche de défendre un Zelda que tout le monde a oublié, et qui l'a fait avec brio.
Très bien. Alors moi, je vais être magnanime, j'allais voter pour moi, mais je ne le peux pas. Donc, la deuxième personne, un petit peu moins bonne que moi toutefois, c'est vous, Monsieur Tom. Vous remportez donc 2 suffrages, mais ce n'est pas fini. Il y aura également le vote du public dans un premier temps, mais vous disposez déjà d'un bonus non négligeable.
D'une avance.
Allez, on va vous donner 10 points d'avance par rapport à nous.
D'accord.
Voilà. Donc, à partir du moment où on atteindra 11 votes, on sera au même niveau que vous, Monsieur Tom.
Tout à fait.
Voilà. Alors, merci d'être resté pour ce procès. On espère que, bien sûr, tout ça vous a plu. Pour la semaine prochaine, on n'a pas encore décidé ce qui allait se passer dans l'émission. Je pense qu'on va revenir à une formule un petit peu plus classique. Est-ce que vous avez déjà des idées de thèmes qui pourraient vous plaire pour la prochaine fois?
Alors moi j'aurais peut-être un invité à inviter, ce sera peut-être ça si toutefois je gagne ce suffrage, nous verrons bien.
Oui, alors votre suffrage permettra de terminer le chroniqueur qui donnera le thème d'une prochaine émission.
Moi comme argument, ça serait bien qu'on trouve plein de jeux de licence avec des écureuils. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous faire partager, à part Monsieur Nuts et Conquer. Voilà.
Ferdi, une idée pour la prochaine fois?
Peut-être un thème sur une console et on dit chacun notre jeu préféré. Voilà, on verra.
Par exemple, moi j'aimerais bien un petit thème sur Ace Attorney, la bonne série d'avocats. Ouais. C'est, en plus, ce serait de rigueur avec cette magnifique émission. On espère que ça vous a plu. C'était un format original qu'on s'est embêté à préparer voilà, finalement on a bien rigolé. C'était très sympa. Rejoignez-nous bien sûr sur Facebook. La faute à la manette, puisque maintenant c'est comme un hashtag, c'est comme sur Twitter.
Voilà.
Et puis voilà, n'hésitez pas à poster des choses. On vous postera bientôt le straw poll, donc le sondage pour savoir qui a été le meilleur selon vous. On vous dit à dans 2 semaines. Plein de bisous. À la prochaine.
À la prochaine.
Bisous, ciao.